Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 6. En revenant de Vilna avec la cour, Hélène se trouva dans une position embarrassante. Elle jouissait en effet à Pétersbourg de la protection toute particulière d'un grand seigneur qui occupait l'un des premiers postes de l'Empire, tandis qu'à Vilna, elle s'était liée avec un jeune prince étranger. Et le prince et le grand seigneur, faisant tous deux valoir leurs droits, elle dut dès lors songer à résoudre de son mieux le délicat problème de conserver cette double intimité sans offenser ni l'un ni l'autre. Ce qui aurait paru difficile, sinon impossible à une autre femme, n'exigea même pas de sa part un instant de réflexion. Au lieu de cacher ses actes ou d'employer toutes sortes de subterfuges pour sortir d'une fausse situation, ce qui aurait tout gâté en prouvant sa culpabilité, elle n'hésita pas une minute à mettre, comme un véritable grand homme, le droit de son côté. En réponse aux reproches dont le jeune prince l'accabla à sa première visite, elle releva fièrement sa belle tête à moitié tournée vers lui. « Voilà bien l'héroïsme et la cruauté des hommes, » dit-elle avec hauteur. « Je ne m'attendais pas à autre chose. La femme se sacrifie pour vous, elle souffre, et voilà toute sa récompense. Quel droit avez-vous, monseigneur, de me demander compte de mes amitiés ? Cet homme a été plus qu'un père pour moi. Oui, ajouta-t-elle vivement pour l'empêcher de parler. Peut-être a-t-il d'autres sentiments que ceux d'un père, mais ce n'est pas une raison pour que je lui ferme ma porte. Je ne suis pas un homme pour être ingrate. Sachez, monseigneur, que je ne rends compte qu'à Dieu et à ma conscience de mes sentiments intimes, ajouta-t-elle en portant la main à son beau sein qui se soulevait d'émotion et en levant les yeux au ciel.
« Mais écoutez-moi au nom du ciel !»«
Épousez-moi, et je serai votre esclave. »«
Mais c'est impossible !»«
Ah, vous ne daignez pas descendre jusqu'à moi !» dit-elle en pleurant. Le prince essaya de la consoler, tandis qu'à travers ses larmes, elle répétait que le divorce était possible, qu'il y en avait des exemples. Il y en avait alors si peu à citer qu'elle nomma Napoléon et quelques autres personnages haut placés. Qu'elle n'avait jamais été la femme de son mari, qu'elle avait été sacrifiée.
« Mais la religion, mais les lois !»
répétait le jeune homme à demi vaincu. « Les lois, les religions, quelles en seraient l'utilité si elles ne pouvaient servir à cela ?» Surpris par cette réflexion, si simple en apparence, le jeune amoureux demanda conseil au révérend père de la congrégation de Jésus avec lesquels il était en intime relation. Quelques jours plus tard, pendant une de ces brillantes fêtes que donnait Hélène à sa datcha de Kamennoï Ostrov, on lui présenta un séduisant jésuite de robe courte, M. de Jaubert, dont les yeux noirs et brillants faisaient un étrange contraste avec ses cheveux blancs comme neige. Ils causèrent longtemps ensemble, dans le jardin, poétiquement éclairé par une splendide illumination, aux sons entraînants d'un joyeux orchestre, de l'amour de la créature pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et des consolations promises dans cette vie et dans l'autre par la seule vraie religion, la religion catholique. Hélène, touchée de ces vérités, sentit plus d'une fois ses yeux se mouiller de larmes en écoutant M. de Jaubert, dont la voix tremblait d'une sainte émotion. Le cavalier qui vint la chercher pour la valse interrompit cet entretien. Mais le lendemain, son futur directeur de conscience passa la soirée en tête-à-tête avec elle et, à dater de ce moment, devint un de ses habitués. Un jour, il conduisit la comtesse à l'église catholique, où elle resta longtemps agenouillée devant un des autels. Le Français, qui n'était plus jeune, mais tout confit et en béate séduction, lui posa les mains sur la tête et, à cet attouchement, elle sentit, comme elle le raconta plus tard, l'impression d'une fraîche brise qui pénétrait son cœur. C'était la grâce qui opérait. On la conduisit ensuite vers un abbé de robe longue, qui la confessa et lui donna l'absolution. Le lendemain, il lui apporta chez elle, dans une boîte d'or, les hosties de la communion. Il la félicita d'être entrée dans le giron de la Sainte Église catholique, l'assura que le pape en allait être informé et qu'elle recevrait bientôt de lui un document important. Tout ce qui se faisait autour d'elle et avec elle, l'attention dont elle était l'objet de la part de ces gens, dont la parole était si élégante et si fine, l'innocence de la colombe devenue son partage, figurée sur sa personne par des robes et des rubans d'une blancheur immaculée, tout cela lui causait une amusante distraction. Néanmoins, elle ne perdait pas son but de vue, et, comme il arrive toujours dans une affaire où il y a de la ruse sous jeu, c'était le plus faible comme intelligence qui devait vaincre le plus fort. Hélène comprit fort que toutes ces belles phrases et tous ces efforts n'avaient d'autre objet que de la convertir au catholicisme et d'obtenir d'elle de l'argent pour les besoins de l'ordre. Aussi, elle ne manqua pas d'insister auprès d'eux, avant de se rendre à leur demande, pour faire hâter les différentes formalités indispensables en vue de son divorce. Pour elle, la religion n'avait d'autre mission que de satisfaire ses désirs et ses caprices, tout en se conformant à certaines convenances. Aussi, dans un de ses entretiens avec son confesseur, elle exigea qu'il lui dît catégoriquement à quel point elle engageait les liens du mariage. C'était le moment du crépuscule. Tous deux, près de la fenêtre ouverte du salon, respiraient le doux parfum des fleurs. Un corsage de mousseline des Indes voilait à peine la poitrine et les épaules d'Hélène. L'abbé, bien nourri et rasé de frais, tenait ses mains blanches modestement croisées sur ses genoux et, en portant sur elle un regard doucement enivré par sa beauté, lui expliquait sa manière d'envisager la question brûlante qui l'intéressait. Hélène souriait avec inquiétude. On aurait dit qu'à voir la figure émue de son directeur spirituel, elle craignait que la conversation ne prît une tournure alarmante. Mais, tout en subissant le charme de son interlocutrice, l'abbé se laissait évidemment aller au plaisir de développer sa pensée avec art.
« Dans l'ignorance des devoirs auxquels vous vous engagiez,
disait-il,
vous avez juré fidélité à un homme qui, de son côté, entrait dans les liens du mariage, sans en reconnaître l'importance religieuse, a commis une profanation. Donc, ce mariage n'a pas eu son entière valeur. Et cependant, vous étiez lié par votre serment. Vous l'avez enfreint. Quel est donc votre péché ? Péché véniel ou mortel ? Péché véniel, assurément, parce que vous l'avez commis sans mauvaises intentions. Si le but de votre second mariage est d'avoir des enfants, votre péché peut vous être remis. Mais ici se présente une nouvelle question et...
Mais, dit Hélène en l'interrompant tout à coup avec une certaine impatience, je me demande comment, après avoir embrassé la vraie religion, je me trouverai encore liée par les obligations de celle qui est erronée. » Cette observation fit sur le confesseur à peu près le même effet que la solution du problème de l'œuf par Christophe Colomb. Il resta ébahi devant la simplicité avec laquelle elle l'avait résolu. Étonné et charmé de ses progrès rapides, il ne voulut pas cependant renoncer tout d'abord à lui déduire ses raisons.
« Entendons-nous, comtesse. »
reprit-il en cherchant à combattre le raisonnement de sa fille spirituelle.